La fiction est le plus souvent assimilée à l'invention d'êtres et de situations imaginaires auxquelles on oppose la réalité. Pourtant, nous le savons au moins depuis Aristote, la fiction est tout autre chose que la production d'êtres imaginaires. Elle est une structure de rationalité. Elle est un mode de présentation qui rend des choses, des situations, des événements perceptibles et intelligibles. Et elle est un mode de liaison qui construit des formes de coexistence, de succession et d'enchaînement causal entre des événements et qui donne à ces formes d'enchaînement la modalité du possible, du réel ou du nécessaire. Or, cette double opération est requise partout où il faut produire un certain sens de réalité et formuler son mode d'intelligence. Reconnaître cette nécessité de la fiction n'a rien à voir avec aucune forme de relativisme. Il ne s'agit pas là de la vérité ou de la fausseté des faits. Il s'agit du mode de rationalité selon lequel on vit des faits. Ainsi, politiciens, journalistes, sociologues ou historiens font œuvre de fiction chaque fois qu'ils doivent nommer des sujets, identifier des situations, lier des événements et en déduire ce qui est possible ou impossible. Mais le fait est qu'ils l'oublient volontiers afin de se réclamer de la seule réalité. Et un bon moyen pour cela consiste à prendre la fiction littéraire comme objet d'étude et à montrer qu'elle ignore ou qu'elle dissimule les réalités de l'économie, de la politique ou du conflit social. En effet, bon, révéler la réalité cachée derrière la fiction, cela permet d'éviter de s'interroger sur les formes fictionnelles qu'on utilise soi-même. C'est pourquoi, parfois, il peut être utile de retourner le jeu. Retourner le jeu, cela veut dire utiliser les formes de la fiction déclarée pour questionner le sens de réalité construit par ces discours qui prétendent être tout simplement l'expression des choses comme elles sont. En effet, la fiction déclarée a un privilège épistémologique. Tout simplement, elle n'a pas besoin de nier son caractère fictionnel. Au contraire, elle rend visible, comme objet d'une construction, ses modes de présentation des faits et de liaison des événements qui se donnent ailleurs comme la simple expression de la réalité objective. C'est pourquoi elle est plus propre à nous enseigner les multiples manières de créer un sens de réalité et de lier ce sens de réalité à un certain ordre du monde. En effet, la fiction déclarée ne peut pas se contenter, comme les autres, d'opposer la fiction à la réalité. Elle doit explorer la différence plus radicale qui sépare la fiction de l'absence de fiction, qui sépare le « il arrive quelque chose » de « il n'arrive rien ». Or, c'est sans doute lorsqu'elle se tient sur cette frontière séparant le quelque chose du rien, que la littérature acquiert son plus haut pouvoir. C'est là aussi peut-être qu'elle acquiert sa signification politique la plus radicale. Cette proposition peut sembler paradoxale, et pourtant, c'est exactement la conclusion du livre le plus accompli consacré à l'histoire de la fiction littéraire en Occident. Je veux parler du livre d'Erich Horvath, publié en 1946, Nimesis, la représentation de la réalité dans la littérature occidentale. Dans son dernier chapitre, Horvath saluait un livre où il voyait à la fois le couronnement suprême de la littérature occidentale, mais aussi la promesse d'une vie commune de l'humanité sur Terre. Or, bon, des livres qui brassent les tourments, les espoirs d'une humanité en mutation, il n'en manque certainement pas. Mais celui que choisit Horvath est apparemment bien loin de toutes les grandes épopées de la condition humaine. Il s'agit en effet de la première qui sera dans une famille petite bourgeoise, peut annoncer l'avenir d'une humanité. Deux chapitres plus tôt, le même Auerbach définissait le cœur du réalisme romanesque moderne. Celui-ci, disait-il, ne peut représenter l'homme que engagé dans une réalité globale, politique, économique et sociale en pleine évolution. Or, apparemment, cette réalité globale, économique, politique, sociale, a fondu en l'espace de deux chapitres. Mais ce qui semble aussi avoir disparu avec elle, c'est cet enchaînement des actions qui faisait le cœur même de la fiction romanesque. Or, c'est justement cette double perte de l'histoire globale et de l'enchaînement des actions que déplorait un autre théoricien du roman, Georg Lukács, dans les années 1930. À ce moment-là, Lukács dénonçait une évolution qui allait du primat de la narration active au règne de la description passive. Le réalisme véritable, pour lui, était incarné par les romans de Balzac. En effet, Balzac mettait en scène des personnages complets qui luttaient pour atteindre leur but. Et ainsi, les combats qu'ils menaient pour atteindre leur but permettaient de montrer la dynamique des conflits sociaux et notamment l'expansion du capitalisme. En revanche, le déclin du roman était attesté 30 ans plus tard par les romans de Zola, parce que la narration des actions cédait la place à la description des choses. Le Zola, comme dit Lukács, décrit les formes du processus social comme des choses inertes, des natures mortes, alignées l'une après l'autre, l'une à côté de l'autre. De là, selon Lukács, on arrivait, avec James Joyce, à ce point extrême de la fragmentation de l'expérience qui transformait même la vie intérieure des personnages en quelque chose, je le cite, de statique et de réussite. Or, bon, apparemment, c'est bien le même chemin que suit Auerbach quand il va de Balzac à Virginia Woolf. Or, ce chemin, apparemment, se détourne en même temps de l'agencement construit des intrigues fictionnelles et, disons, de la grande histoire. Or, Auerbach donne à cette évolution une signification qui renverse complètement la perspective. Pour lui, les micro-récits de Virginia Woolf ne détournent pas des enjeux de la communauté humaine. Au contraire, ils ouvrent vers son avenir. Et s'ils le font, ce n'est pas bien que Virginia Woolf ruine cet agencement d'action qu'on tenait pour le principe de la fiction, mais parce qu'elle le ruine. Je cite ici Auerbach. Ce qui arrive ici, chez Virginia Woolf, est exactement ce qui a toujours été tenté par ce genre d'œuvre, mais pas toujours avec la même pénétration ni la même maîtrise, c'est de mettre l'accent sur la circonstance quelconque et de l'exploiter non au service d'un enchaînement concerté d'action, mais pour elle-même. Fin de citation. Bon, c'est quand même une affirmation extraordinaire. Auerbach nous dit l'achèvement suprême de la fiction réaliste occidentale, c'est la destruction de cet enchaînement concerté d'actions qui pourtant semble être la condition minimale de toute fiction. C'est le privilège donné à la circonstance quelconque, qu'il appelle aussi le moment quelconque. Comment penser cet achèvement en forme de destruction radicale? Et comment est-ce que le règne du moment
moment
quelconque, présage peut présager une nouvelle vie commune sur la terre. Bon, Auerbach ne répond là-dessus que par des considérations banales. Sur le contenu de ces moments quelconques, il conserve, nous dit-il, les choses élémentaires que les hommes ont en commun. Mais Auerbach en a dit assez auparavant pour nous laisser percevoir que le commun, qui est en jeu dans le moment quelconque, ne concerne pas le contenu du temps, mais sa forme même. S'il y a une politique de la fiction, elle ne vient pas de la manière dont celle-ci représente la structure sociale et les conflits sociaux. Elle ne vient pas de la sympathie qu'elle peut susciter pour les opprimés ou de l'énergie qu'elle peut engendrer contre l'oppression. Elle vient de cela même qui la fait être comme fiction. C'est-à-dire une manière d'identifier des événements et de les lier les uns aux autres. Le cœur de la politique de la fiction, pour le dire en bref, c'est le traitement du temps. Bon. La chose, après tout, était connue depuis l'Antiquité et elle avait reçu sa formulation exemplaire au 9e chapitre de la Poétique d'Aristote. À ce 9e chapitre, Aristote expliquait en quoi la poésie est plus philosophique. C'est, dit-il, que la poésie, c'est-à-dire pour lui, non pas la musique des vers, mais la construction d'une intrigue fictionnelle, la poésie dit comment les choses peuvent arriver. Elle dit comment, donc, elles arrivent comme conséquence d'un enchaînement de causes et d'effets. Donc, la poésie ou la fiction se caractérise en prenant le temps comme principe de rationnalité. En cela, elle s'oppose à l'histoire.